Eh bien, bonjour à tous. Merci Clément de cette très aimable présentation. Et j'ai été très flatté, évidemment, que tu m'invites à présenter un séminaire ici au collège, axé sur, effectivement, le problème de l'échange d'électrons dont on ne parle pas très souvent dans la chimie sol-gel, dans la chimie en solution, et pourtant qui intervient dans beaucoup de circonstances, aussi bien d'ailleurs dans la chimie des matériaux, dans l'élaboration de matériaux, de nanomatériaux, que dans la chimie environnementale et tout particulièrement dans les processus bio-géochimiques qui sont impliqués dans de très nombreux phénomènes, en particulier la minéralogie des systèmes aqueux, le cyclage de divers éléments, que ce soit des éléments majeurs comme le fer, le manganèse, ou des éléments traces, hein, comme l'uranium ou d'autres éléments. La mobilité également de ces éléments dans les milieux naturels, les phénomènes de corrosion, les traitements de l'eau, enfin tout un tas de systèmes où les transferts d'électrons associés à des transferts de protons sont extrêmement importants. Alors, je vais présenter le séminaire en trois points essentiellement, revenir un petit peu sur l'acidité et les réactions redox en milieu aqueux, et de savoir un petit peu quel couplage, quelle relation il peut y avoir entre les deux phénomènes. Et je vais illustrer ça avec la synthèse de différentes particules d'oxyde de manganèse en solution, donc là avec des réactions redox à partir de précurseurs solubles. Et puis dans une troisième partie, une dernière partie, là je vous montrerai un petit peu quel peut être l'intérêt de considérer les transferts électroniques, la mobilité électronique dans le solide, et en particulier de voir comment des transferts à l'interface peuvent s'effectuer. Et les matériaux qui sont tout à fait désignés pour ce genre de choses, c'est les oxydes de fer, hein, avec donc trois parties. L'influence de l'adsorption d'ions ferreux sur un matériau très désorganisé tel que la ferrihydrite pour entraîner la cristallisation du spinel, la transformation structurale dans la structure spinel, c'est-à-dire le passage de la magnétite à la magnémite et éventuellement quelque chose de sensiblement réversible et des phénomènes qui sont également induits par l'adsorption. Et enfin, un phénomène tout à fait spectaculaire qui est la transformation morphologique de l'hématite par adsorption d'ions ferreux. Alors, pour commencer, donc, je vais vous parler des cations métalliques en solution, et ça, Clément vous en a, je pense, abondamment parlé la semaine dernière. Hein, les cations métalliques mis en solution aqueuse forment des complexes de coordination et l'interaction de coordination provient d'un transfert de charge ligand-cation, qui permet donc de former un objet à géométrie tout à fait contrôlée. Et du fait du transfert électronique depuis le ligand vers le cation, eh bien, il y a affaiblissement de la liaison OH des molécules d'eau coordinées, ce qui confère à ce genre de complexe des propriétés acido-basiques tout à fait importantes. Et par exemple, des ions ferriques en solution, eh bien, c'est aussi acide que de l'acide chlorhydrique à la même concentration. Alors, ce transfert de protons, cette acidité des cations métalliques, vient donc du transfert ligand-métal, et la déprotonation des molécules d'eau est donc rendue plus facile que celle des molécules de solvant, puisque la densité électronique à l'intérieur du ligand se trouve drainée vers le cation métallique. Et par conséquent, les liaisons OH affaiblies et l'élimination, en somme, du proton de la molécule d'eau coordinée, eh bien, peut se faire directement via un réseau de liaisons hydrogène entre la molécule d'eau coordinée, polarisée bien évidemment, et puis les molécules de solvant ou les réactifs tels que l'ion hydroxyle. Donc là, il s'agit de réactions qui sont extrêmement rapides, qui ne demandent quasiment pas d'énergie d'activation, hein, et qu'on ne peut absolument pas contrôler, sinon par la quantité de réactifs que l'on introduit dans le milieu. Alors, évidemment, le taux de déprotonation de ces ligands dépend de caractéristiques propres du cation, c'est-à-dire tous les facteurs qui joueront sur la polarisation du ligand, tels que la charge, la taille, l'électronégativité, et puis un paramètre extrinsèque, en somme, qui est l'acidité du milieu que l'on peut contrôler de l'extérieur par, évidemment, la quantité de réactifs ajoutés. Alors, on peut établir un diagramme charge-pH qui permet de prévoir quel va être le ligand majoritaire dans la sphère de coordination du cation. Et sur ce diagramme, on ne tient compte que de la charge parce que c'est le facteur de loin le plus important parmi ceux qui sont ici. C'est vraiment le degré d'oxydation du cation qui détermine largement l'acidité, au premier ordre au moins, l'acidité de ces espèces. Donc pour les cations très fortement chargés, des degrés d'oxydation très élevés, eh bien, les éventuelles molécules d'eau de coordination seraient totalement déprotonées, si bien que le cation se trouve dans un environnement purement oxo. Au contraire, pour les cations de très faible charge, la molécule d'eau, certes, est polarisée, mais pas suffisamment pour lui conférer des propriétés acido-basiques très marquées, de sorte que là, on aura des espèces purement aco qui pourront exister en solution. Et puis évidemment, dans le domaine intermédiaire, eh bien, ce seront des espèces soit aco-hydroxo, soit oxo-hydroxo, en fonction du degré d'oxydation du cation. Alors, c'est ça qu'il est important de considérer, c'est que les complexes hydroxylés jouent en fait le rôle de réactifs nucléophiles et participent à des réactions de substitution qui donnent lieu, in fine, aux réactions de condensation. Alors là, selon la nature de la sphère de coordination, deux mécanismes principaux sont impliqués. Tant qu'il existe des molécules d'eau dans la sphère de coordination des précurseurs, la réaction de condensation qui va intervenir est une réaction dite d'olation, qui consiste simplement à une élimination de la molécule d'eau. Un groupe partant est présent dans la sphère de coordination. Autrement dit, on a juste une élimination de molécules d'eau qui aboutit de ce fait à la formation d'un pont hydroxo. Et vous imaginez bien que si vous avez le même ligand hydroxo de l'autre côté, eh bien vous arrivez facilement à l'association de polyèdres tels que des octaèdres par des arêtes. Et là, je considère volontairement des octaèdres parce que dans ces conditions-là, les cations ont toujours leur coordinance maximum qui, pour la plupart des éléments de transition, est octaédrique. Alors, si on a affaire à des complexes oxo-hydroxo, là, il n'existe pas de groupe partant dans la sphère de coordination. Autrement dit, une réaction de substitution suivra un mécanisme un petit peu plus complexe de façon à pouvoir générer un groupe partant, et ça sera typiquement l'attaque nucléophile d'un ligand OH sur le cation métallique, le centre positivement chargé évidemment de l'entité, avec un transfert de protons vers un ligand OH pour générer la molécule d'eau qui s'élimine. Et ce système-là, eh bien, conduit évidemment à la formation d'un pont oxo et non plus hydroxo entre les cations, d'où la réaction d'oxolation qui aboutit par conséquent à la condensation et à la formation de dimères tels que ceci. Alors, ces considérations montrent donc que l'hydroxylation du cation est la condition nécessaire pour qu'il y ait condensation. S'il n'y a pas d'hydroxylation, par exemple, s'il n'y a que des molécules d'eau dans la sphère de coordination, il ne peut pas y avoir de groupe entrant participant à une réaction de substitution. Donc, les complexes restent monomères. Et si l'on ne prend que des systèmes oxo, là, il peut y avoir des groupes entrants, mais il n'y a pas de groupe partant, parce qu'on ne peut pas, au cours d'une réaction de substitution dans l'eau, éliminer un ligand oxo. Autrement dit, là aussi, les espèces restent monomères, et donc l'hydroxylation du cation est la condition nécessaire. Donc, on voit qu'il existe des chemins soit d'acidification d'espèces oxo, soit d'alcalinisation d'espèces hydroxo, qui vont pouvoir permettre au cation de rentrer dans la zone hydroxylée. Mais ce ne sont pas les seuls chemins possibles. Il est aussi possible de faire intervenir des réactions redox qui vont pouvoir abaisser la charge du cation et donc faire pénétrer un complexe initialement oxo dans la zone hydroxo et réciproquement une espèce purement aco dans la zone hydroxo par un phénomène d'oxydation. Alors, c'est typiquement ce qui peut intervenir. Alors, j'ai pris l'exemple du manganèse parce que sa chimie en solution est particulièrement riche. Et on voit que, donc, quelle que soit l'acidité du milieu, eh bien, le manganèse au degré d'oxydation 7 restera une espèce soluble qui ne condensera jamais. C'est le permanganate en solution et qui ne se condense pas. En revanche, si on réduit le permanganate pour arriver au degré d'oxydation 4, alors là, on a un cation fortement polarisant qui n'existe pratiquement que sous une forme tétrahydroxylée, donc une espèce de charge nulle, et qui ne va pas pouvoir exister réellement en solution, mais qui va donner lieu à des réactions de condensation qui aboutissent à la précipitation donc, du manganèse sous forme MnO2. En passant au manganèse 3, alors là, on peut avoir des espèces cationiques, faiblement hydroxylées qui pourront se condenser, mais qui nécessiteront une alcalinisation pour arriver dans le domaine de précipitation d'oxyde de type Mn2O3. Et puis, si on réduit au degré d'oxydation 2, eh bien là aussi, on a une espèce purement aqueo qui reste stable en solution, et il faudra augmenter le pH de la solution pour précipiter l'hydroxyde. Alors, en ce qui concerne les réactions redox, quels sont les mécanismes qui sont impliqués dans la réaction? Alors, vous avez ici le schéma d'une espèce en solution, un réducteur, un oxydant, et un transfert électronique entre l'un et l'autre va pouvoir permettre au transfert, à l'échange d'électrons de se produire. Alors, ce qui se passe, et à la grande différence des phénomènes acido-basiques, c'est que la forme oxydée, par exemple, dans sa géométrie, n'est pas capable de recevoir l'électron dans une sphère de coordination de petite taille, parce qu'évidemment, un transfert d'électrons va accroître la taille du cation. Autrement dit, ce qu'il va falloir, c'est qu'il y ait, pour que la réaction puisse se produire, une modification, une respiration des complexes, une compression ou une dilatation des sphères de coordination générées par des vibrations thermiques du système pour arriver à rendre le transfert d'électrons possible entre une sphère de coordination qui aura été dilatée et une sphère de coordination du réducteur qui aura été comprimée. Et c'est ainsi que, donc, dans le modèle de Marcus, eh bien, le transfert électronique passe lorsque le système a acquis la bonne géométrie, en quelque sorte, quel que soit le mécanisme mis en jeu, soit des transferts par sphère externe ou par sphère interne. Donc ça, c'est dans les deux cas, il faudra bien évidemment cette condition-là. Alors ça, on peut le représenter sur un schéma où on représente en somme ici l'énergie du système de réactif en somme en fonction de la coordonnée réactionnelle, enfin en fonction des modes de vibration du système. Hein, et on aura donc passage de l'électron lorsque le système aura atteint l'énergie d'activation nécessaire pour que le transfert se fasse et ensuite les produits relaxent pour aller former donc, les produits de la réaction. Alors, dans une telle situation, quel peut être le rôle de l'acidité dans le transfert redox en considérant des complexes oxo ou hydroxo? Alors, je prends l'exemple toujours du permanganate où on écrit classiquement la réaction de réduction du permanganate, la réduction à 5 électrons, donc MnO4- plus 5 électrons plus 8H+, qui donne Mn2+, plus 4H2O. Alors ça, c'est ce qu'on trouve dans tous les bouquins de chimie analytique, et moi, on m'a appris quand j'étais étudiant, les protons, ils servent à quoi? À éliminer l'oxygène sous forme d'eau, pour former des ions manganeux. Alors ça, évidemment, c'est une vue un petit peu, succincte du phénomène, hein, puisque quand on considère, par exemple, le permanganate avec un rayon ionique extrêmement petit, hein, de l'ordre de 0,27 angstrom, il va falloir aider le système pour qu'il puisse accepter des électrons, et en particulier soulager sa sphère de coordination. Hein, et en particulier, quand on voit le passage du manganèse 7 au manganèse 2 avec un rayon ionique de 0,67 angstrom. Alors, c'est là où, justement, on sent que les protons, l'acidité du système est absolument nécessaire pour pouvoir venir protoner les oxygènes et forcer la protonation de l'oxygène de manière à augmenter la liaison oxygène-métal. Il est clair qu'à partir du moment où on va protoner de l'oxygène, le transfert électronique depuis l'oxygène vers le cation va s'abaisser et auquel cas, la liaison va s'accroître, va s'allonger. Donc, c'est un système tel que celui-ci, une acidification importante du milieu qui va permettre la dilatation de la sphère de coordination, qui plus est, va s'accroître et accepter deux molécules d'eau supplémentaires pour passer en coordination 6, permettre le transfert de l'électron et du coup, aller au manganèse 2. Alors, c'est comme ça, effectivement, qu'on réalise cette réaction et qui s'écrira maintenant MnO4- plus 5 électrons plus 8H+, plus 2H2O, qui donne le complexe hexaaco Mn2, le complexe manganeux. Et si, comme quelquefois beaucoup d'étudiants le font dans leur TP, ils oublient d'acidifier suffisamment la solution lorsqu'ils veulent réduire le permanganate, eh bien, ils constatent qu'ils observent un précipité noir-marron, hein, et que la réaction ne s'est donc pas produite dans les conditions qu'ils espéraient, tout simplement parce qu'ils ont oublié de mettre suffisamment d'acidité. Dans ce cas-là, on a un échange limité à 3 électrons seulement, qui conduit au manganèse au degré d'oxydation 4, et le précipité qu'ils voient, ben, c'est du MnO2. Donc là, on voit tout à fait comment les deux transferts électrons et protons sont couplés de manière à réaliser ce genre de réaction. Alors ça s'exprime du point de vue thermodynamique, on va dire, dans les diagrammes potentiels pH, hein, et on comprend qu'il y ait de façon très générale un abaissement du potentiel redox du système quand l'acidité diminue, parce que c'est toujours en milieu le plus acide que la sphère de coordination de l'oxydant est la plus dilatée. Donc c'est là où le potentiel va donc être le plus important. Et puis, d'autre part, oui, l'acidité permet de contrôler la nature des espèces qui sont en présence dans le milieu, c'est-à-dire est-ce que l'on va avoir des espèces solubles ou au contraire des espèces précipitées, donc des solides. Alors c'est tout cet ensemble de choses qui fait qu'effectivement acidité et potentiel redox sont associés hein, dans la chimie de certains systèmes. Et donc ces lignes-là eh bien, traduisent en somme la variation du potentiel standard du système en fonction de l'acidité du milieu. Donc les conditions standards, c'est quand les concentrations de l'oxydant et du réducteur sont égaux à toutes les deux égales à 1. Et dans ce cas-là, donc, on trace ce genre de choses qui délimitent en somme les diagrammes de prédominance des différentes espèces dans le milieu. Alors, je voudrais maintenant vous montrer comment, en contrôlant l'acidité du milieu dans des systèmes redox, eh bien, on peut tout à fait contrôler la nature de ce que l'on va obtenir, tant du point de vue structural que du point de vue morphologique. Et l'exemple que je prends est la synthèse d'oxyde de manganèse qui a fait l'objet de la thèse de David Portehaut ces dernières années. Alors l'oxyde de manganèse est très intéressant parce qu'il y a une grande richesse structurale parmi ces oxydes, qu'en outre, il peut se former pas mal de phases non stoichiométriques et qui donc peuvent être très intéressants au niveau des matériaux d'électrode. Hein, c'est un petit peu dans ce contexte-là qu'on s'était dirigé vers ce genre de matériaux. Alors, l'inconvénient du système, c'est qu'il n'existe pas de complexe simple et soluble du manganèse 4. Et à part ce genre de complexe, la plupart du temps, enfin, comme on l'a vu, les formes solubles sont donc le permanganate et les ions manganeux. Et ce que l'on peut faire, c'est une réaction redox entre ces deux espèces. Hein. C'est une réaction de médiamutation qui est l'inverse d'une dismutation, si vous voulez. Et ceci est intéressant parce que ça permet d'éviter la présence de réactifs parasites dans le milieu. Alors, typiquement, la réaction s'écrit de la manière suivante, qui va former donc du manganèse au degré d'oxydation 4, et comme il s'agit ici, dans les conditions d'acidité classiques, d'une espèce non chargée, eh bien, elle mène à l'oxyde MnO2. Alors, les paramètres très importants à contrôler dans le milieu, c'est évidemment la stoichiométrie de la réaction, mais aussi le pH du milieu, la température. Alors, si on travaille, par exemple, ici, dans les conditions stoichiométriques, donc là, on est bien dans le rapport 2-3, la solution est laissée chauffer à 95 degrés pendant une durée d'une semaine environ. En fonction de l'acidité du milieu, on va obtenir des choses tout à fait différentes. En milieu acide jusqu'à des pH d'environ 4, eh bien là, on a une réaction en solution à partir de précurseurs solubles qui va conduire à la formation de MnO2 dans sa forme la plus stable, c'est-à-dire le cryptomélane, et qui, de par sa structure cristalline, conduit à la formation de baguettes de ce type-là. Si maintenant on opère dans des conditions plus alcalines, à un pH qui est supérieur à 6, par exemple, la différence, c'est que ici les ions manganeux vont précipiter dès le départ. On va donc avoir la réaction entre un oxydant, le permanganate, et le manganèse 2 sous forme de particules de MnOH deux fois. Et dans ce cas-là, eh bien, on va avoir formation toujours de MnO2, enfin essentiellement de degré d'oxydation 4, mais en fait un oxyde mixte, qui est la birnécite, et dont on voit de façon évidente la parenté structurale avec la structure brucite de départ. Seulement ici, comme on a des feuillets qui sont chargés négativement, eh bien, on va avoir des cations qui s'insèrent à l'intérieur de la structure. Et bien évidemment, la forme des particules eh bien, est en forme de plaquettes. Alors, si on travaille maintenant avec un excès de permanganate par rapport à la quantité de d'ions manganeux, eh bien là, on va donc avoir la même réaction que celle de tout à l'heure, c'est-à-dire une réaction rapide avec cette proportion-là, qui va conduire en milieu acide à former un système amorphe. Tout à l'heure, on avait attendu pendant 7 jours, donc le système avait eu le temps de cristalliser. Ici, il va être amorphe, tandis qu'à pH 11, eh bien, on va avoir directement la birnécite. Et Ici, évidemment, comme on travaille avec un excès de permanganate, il va rester du permanganate en solution qui ne trouvera plus le réducteur MN2 pour réagir et auquel cas va donc attaquer l'eau, mais dans un système beaucoup plus lent, puisque la réduction du permanganate par l'eau est quelque chose d'extrêmement lent. Ici, on chauffe le système à 95 degrés. Et donc, on va générer le précurseur de charge nulle manganèse 4 au cours d'une réaction qui va entraîner une nucléation secondaire hétérogène sur les germes qui existent déjà dans le milieu. Et ça va aboutir en somme à la décoration des particules par formation de birnécites sur les objets préalablement formés, c'est-à-dire ici des sphéroïdes amorphes ou ici sur les plaquettes de birnécites. Donc, on aboutit à une décoration où on a caractérisé un petit peu ces choses-là. Alors, on peut aussi décorréler les deux réactions, c'est-à-dire laisser le système aller dans les conditions stoichiométriques à l'équilibre, hein, une réaction en milieu acide qui va donc conduire au cryptomélane. Et après, rajouter, une fois que ces particules-là sont formées, rajouter du permanganate dans le milieu, qui va aussi réagir avec l'eau, mais en alcalinisant le système, autrement dit, les espèces réduites qui vont être formées vont former cette fois-ci la birnécite, mais la birnécite qui va venir se fixer sur les particules de cryptomélane. Et on a donc un système, une hétéroépitaxie en quelque sorte, de croissance de birnécite sur les tiges de cryptomélane initialement formées. Et cette hétéroépitaxie est favorisée par le fait que l'écart entre les plans dans la birnécite coïncide exactement ou pratiquement exactement avec cet écart-là dans la structure du cryptomélane. Donc on a une parfaite adéquation structurale pour faire croître en somme sur un oxyde de structure donnée un autre. J'avoue d'ailleurs que ce système-là, il avait été prévu. C'est-à-dire que c'est ça qu'on cherchait à faire, ce n'est pas un accident. Tandis que dans d'autres cas, bon, on constate, on observe et on est bien content. Mais à partir des considérations qu'on avait eues précédemment, on s'était dit qu'en faisant ça, ça devrait marcher, ça a marché. Alors maintenant, on peut travailler avec un défaut de manganèse 7, donc un excès de manganèse 2. Et cette fois-ci, on a un système qui est assez compliqué avec la coexistence de plusieurs phases. Hein, donc voilà une image des différentes particules que l'on obtient. On peut reconnaître de la manganite, donc degré d'oxydation 3 du manganèse, sur ces longues tiges ici, et puis de la ramsdélite qui forme ces cônes tout à fait bizarres qui sont là, ramsdélite qui est formée par l'oxydation, ça c'est du manganèse 4, et qui est formée par l'oxydation d'une phase intermédiaire, la groutite, qui est identifiée donc en cours de route. Alors là, le système est assez complexe parce que vous voyez qu'en fonction de l'acidité du milieu, eh bien, on va avoir coexistence toujours de la manganite, mais d'un certain nombre de phases différentes et avec des morphologies tout à fait différentes. D'où l'importance de parfaitement contrôler les conditions expérimentales de l'affaire. Alors ici, donc, voilà ce genre de particules de ramsdélite qui ont été formées et on se demandait évidemment comment est-ce que de tels objets pouvaient être, se former dans ces conditions-là. Alors en fait, avec une très précise caractérisation structurale de ces particules, eh bien on s'aperçoit qu'elles sont en fait composites et formées par différentes structures, et notamment des petites baguettes, hein, qui s'associent de façon tout à fait particulière et qui donc permettent la formation de ces cônes par cristallisation de germes, et puis ensuite un phénomène d'agrégation, mais d'agrégation orientée. D'abord de particules de petites bâtonnets de groutite, et puis qui s'oxydent finalement en cours de route et avec une croissance qui se produit comme ceci. Bon, je n'ai pas le temps d'insister véritablement là-dessus. Enfin, vous voyez que peuvent se produire des structures tout à fait particulières. Alors maintenant, si on travaille avec des systèmes avec, par exemple, non plus du manganèse 2 comme réducteur, mais ici le thiosulfate, eh bien, on arrive à former des structures aussi tout à fait particulières, et notamment la fechnechtite, qui est une phase métastable, fortement métastable dans le système, et qui est formée elle aussi par un processus d'agrégation ordonnée de petites baguettes. Voilà au bout de 2 jours le système où on voit comment l'organisation peut se faire, et au bout de 4 jours, eh bien, les phénomènes de dissolution-cristallisation ont permis de lisser tout à fait ce genre de choses. Mais si on insiste et qu'on laisse vieillir, évidemment, comme c'est une phase métastable, eh bien, elle se transforme en manganite, hein, sous forme de baguette de ce type-là. Et ce qui est très étonnant, c'est que les manganites qui sont formés par un processus de dissolution-cristallisation ont parfaitement conservé la forme de la particule initiale, même si le creux a totalement disparu au cours des phénomènes de dissolution-cristallisation. Alors le mécanisme qui peut être invoqué ici est donc un mécanisme d'agrégation orientée, dans un premier temps, puis de redissolution sur place, en somme, redissolution-cristallisation du système. Alors, tout à l'heure, on travaillait donc à 60 degrés, mais si on travaille à 95 degrés, ben là, on a encore autre chose. Cette fois-ci, la réduction se fait plus puissante avec le thiosulfate et on arrive à faire un oxyde mixte d'un degré d'oxydation 3 et 2, hein, qui est l'osmanite avec une structure spinelle, hein, mais sous forme de particules qui ont donc un faciès totalement différent. Donc, vous voyez que dans ces circonstances-là, en contrôlant parfaitement les conditions de la réaction redox et l'acidité du milieu, eh bien, on arrive à maîtriser tout à fait l'affaire, tant du point de vue structural que du point de vue morphologique. Et ça, surtout dans un système tel que celui du manganèse, qui est évidemment extrêmement riche du fait de la variété des degrés d'oxydation et des structures cristallines que l'on peut obtenir. Alors, dans un deuxième temps, j'espère que je vais avoir le temps, maintenant, je voudrais vous parler de quelques exemples de transferts électroniques, mais qui interviennent dans le solide. Et j'ai choisi les oxydes de fer qui donnent lieu à des phénomènes tout à fait spectaculaires. Et le premier point que je voudrais évoquer, c'est la cristallisation du spinel par introduction d'ion ferreux dans cette phase que l'on appelle ferrihydrite, qui est un oxyhydroxyde de fer dont à la fois la composition, la structure sont extraordinairement mal définies. Et quand on précipite des ions ferriques tout seuls, eh bien voilà ce que l'on obtient comme diagramme de diffraction. Donc vous voyez deux modulations sur le diagramme de diffraction X, et c'est pour cela qu'on appelle la ferrihydrite à deux raies, hein, parce qu'il y a deux massifs de diffraction-diffusion. Et dans des systèmes un petit peu plus organisés, eh bien, on voit des raies, un diagramme qui commence à s'enrichir, et comme ça, on a des ferrihydrites à six raies avant de passer à des phases bien cristallisées, telles que l'hématite, par exemple, ou la goethite. Alors, c'est typiquement ce que l'on obtient quand on laisse vieillir ce matériau en suspension. Selon les conditions acido-basiques dans lesquelles on se trouve, eh bien, on va pouvoir former de l'hématite en milieu neutre, ou bien de la goethite en milieu plus alcalin et également en milieu plus acide. Alors là, deux mécanismes sont impliqués dans la cristallisation. Pour en ce qui concerne l'hématite, eh bien, c'est une transformation in situ du solide, et ça a été très bien montré par le suivi en somme de l'évolution structurale du milieu. Et là, on arrive directement à la phase oxyde, parce que le système n'a pas la possibilité de faire autrement que de s'organiser in situ en éliminant de l'eau. Et par conséquent, les particules qui sont issues de ce mode de vieillissement sont extrêmement petites, parce que cette structuration ne peut pas se faire à grande échelle, parce que ça impose évidemment la diffusion des ions dans le milieu. Et puis, lorsque la solubilité du cation augmente, eh bien à ce moment-là, des processus de dissolution-cristallisation peuvent conduire à la phase stable, si vous voulez, classique que l'on obtient dans ces conditions-là, qui est un oxyhydroxyde, en l'occurrence ici, la goethite. Alors, si on travaille avec le même matériau, mais cette fois-ci en présence d'ions ferreux sur un large domaine de composition, eh bien là, le système file vers une autre direction structurale et on va vers la magnétite, qui est ici Fe3O4 et qui a une structure complètement différente de celle-ci. Là, c'est la structure spinelle inverse du matériau. Voilà. Donc, quand on coprécipite des ions ferreux et des ions ferriques, dans les conditions stoichiométriques, c'est-à-dire 2 fer 3 pour 1 fer 2, eh bien là, on obtient la magnétite Fe3O4, une structure spinelle inverse où les ions ferreux sont localisés dans les sites octaédriques de la structure et les ions ferriques dans les sites octaédriques et tétraédriques. C'est donc la structure spinelle inverse. Et cette structure-là est caractérisée par un transfert électronique rapide entre les ions ferriques et ferreux du sous-réseau octaédrique. Les ions ferriques du sous-réseau tétraédrique ne sont pas concernés par l'échange électronique. Si bien que, je vous le montrerai tout à l'heure, avec des spectroscopies comme la spectroscopie Mosbauer, par exemple, eh bien, on observe un fer à un degré d'oxydation, à une valence 2,5 et non pas 2 ou 3. c'est un matériau qui est pratiquement un conducteur. Donc, vous voyez le gap 0,1 électronvolt, ce qui permet donc d'avoir une délocalisation rapide dans le système et une couleur noire du matériau. Alors, cette magnétite ou cette structure spinelle va exister sur un très large domaine de non-stoichiométrie qui conduit à une phase qui est totalement dépourvue d'ions ferreux, qui est donc c'est gamma Fe2O3, pardon, là il y a une erreur. Fe2O3, qui correspond donc à la présence de lacunes dans le sous-réseau octaédrique pour pallier l'absence, évidemment, des cations ferreux. Donc, c'est ce qu'on appelle la magémite. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que la magémite n'est jamais formée par une précipitation directe d'ion ferrique. Il faut toujours passer par un intermédiaire magnétite plus ou moins stoichiométrique, mais au moins qu'il y a eu la présence d'ions ferreux pour engendrer le réseau spinel, qui ensuite va pouvoir passer à la magémite. Alors, à la différence de ce système, si on réalise la coprécipitation d'ions ferriques avec d'autres divalents tels que le cobalt, le manganèse, le nickel, on va obtenir aussi la structure spinelle, mais cette fois-ci dans des conditions beaucoup plus difficiles. Il faudra en général chauffer et attendre beaucoup plus longtemps que la cristallisation intervienne. Et ça, c'est effectivement dû au fait que l'on n'a pas de transfert électronique entre les ions divalents et trivalents. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous présenter la spectroscopie Mosbauer, mais très très rapidement, parce que c'est un outil qui va nous permettre de suivre un petit peu ce qui se passe dans le milieu. Alors, c'est une spectroscopie qui est une absorption de résonance nucléaire de photons gamma, sans effet de recul du noyau, c'est-à-dire que toute l'énergie du rayon gamma est utilisée pour faire des transitions entre les spins nucléaires. Alors, le rayonnement gamma est obtenu par un émetteur qui est l'isotope 57 du cobalt et qui est absorbé, en somme, par le fer 57 et uniquement l'isotope fer 57. Donc, on va avoir des transitions dans le noyau fer qui vont être décalées par rapport à la source émettrice et ce décalage représente ce qu'on appelle le déplacement isomérique qui dépend essentiellement du degré d'oxydation du fer. Et puis ensuite, on aura un éclatement quadripolaire qui est dû à l'abaissement de symétrie autour du noyau fer, qui conduit donc à un spectre à deux raies. Et si on applique un champ magnétique externe ou bien le champ propre du système, eh bien on a une démultiplication, une levée de dégénérescence en somme de tous ces niveaux qui permet d'observer un sextuplé magnétique en somme du matériau. Donc, voilà simplement ce qu'il faut retenir de cette affaire-là. Alors, voilà donc un certain nombre de phases ferriques ou bien mixtes de la magnétite avec leur spectre caractéristique. Alors évidemment, beaucoup d'effets interviennent sur ces spectres, en particulier la température, les problèmes de relaxation magnétique, le problème des interactions interparticulaires qui modifient évidemment les spectres, mais ça, ce sont des choses dont je ne parlerai pas. Alors, ce que je voulais simplement vous montrer, c'est comment est-ce qu'on s'aperçoit de la mobilité électronique dans le réseau spinel. Eh bien, tout simplement parce que dans le spectre de la magnétite stoichiométrique qui est ici, eh bien, vous voyez que ce spectre est composé d'un sextuplé correspondant à des ions ferriques, donc en particulier les ions ferriques tétraédriques, et puis un deuxième sextuplé qui n'a pas le même déplacement isomérique et qui correspond justement à des fers de charge plus 2,5. Donc, avec le temps caractéristique de la spectroscopie Mosbauer, on observe un effet moyen, c'est-à-dire des fers à une valence mixte, 2,5, parce que l'échange électronique est plus rapide, justement, que le temps caractéristique de la spectroscopie. Et puis, bon, le spectre se modifie, finalement, pour aller jusqu'à celui de la magémite gamma Fe2O3, qui ne comporte plus qu'un seul sextuplé rouge ici, parce qu'on n'a plus d'ions ferreux dans le système octaédrique. Alors, cette composante fer 2,5 du spectre Mosbauer n'existe pas dans toutes les phases mixtes. Typiquement ici, voici une rouille verte, qui est une structure de type brucitique, si vous voulez, hydrotalcite, mais dans les plans, dans les feuillets de la structure ici, on a à la fois du fer 2 et du fer 3, mais dans cette structure, il y a beaucoup de fer 2 par rapport au fer 3, deux fois plus, et il n'y a pas de délocalisation électronique. Et on voit très bien que le spectre ici est composé de deux doublés, un doublet ferreux représenté ici en vert et un doublet ferrique qui est ici représenté en orange, avec des déplacements isomériques, effectivement, caractéristiques, 1,27 mm/s. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que ici les axes d'énergie étaient en fait gradués en vitesse, parce que pour moduler l'énergie de la source et observer les transitions, l'absorption en somme dans le fer, eh bien, il faut faire légèrement varier l'énergie de cette source, et on le fait par un effet Doppler, c'est-à-dire qu'on fait vibrer la source, on déplace la source par rapport à l'émetteur, ce qui entraîne donc par effet Doppler une modulation de l'énergie, et l'abscisse des spectres est tout simplement exprimée en vitesse. Alors, je reviens à la coprécipitation des ions ferriques et ferreux, et on voit que dès des rapports très faibles, en somme, fer 2 sur fer 3, qui sont loin de la stoichiométrie idéale de la magnétite, eh bien, on observe déjà les sextuplés magnétiques. Ici, on observe aussi un doublé qui pourrait être interprété comme un doublé ferrique, mais en fait, il s'agit d'un effet de relaxation parce que les particules de Spinel sont extrêmement petites. Hein, et qu'à ce moment-là, donc, on a un effet que l'on appelle le super-paramagnétisme qui se traduit comme ceci. Mais ce que l'on voit, c'est que donc, ici, uniquement du Spinel, et avec des tailles extrêmement variables, ici, voilà des distributions de tailles en fonction de la composition en ion ferreux, et un diagramme de phase qui vous montre qu'effectivement, à partir d'environ un rapport fer 2 sur fer 3 de 0,1, eh bien, l'ensemble du système cristallise en Spinel. Mais, et là vous voyez que j'ai mis un petit M et un grand M, on a à la fois des particules de petite taille et des particules de grande taille avec des compositions extrêmement différentes. Donc un système qui évolue de manière assez complexe. Alors ce que l'on peut observer, c'est que dès le départ, lorsque l'on a un système qui est encore amorphe aux rayons X, c'est-à-dire extrêmement désorganisé, eh bien, les fer 2 sont incorporés dans le solide et la mobilité électronique intervient déjà dans le matériau non organisé. Et ça se manifeste, par exemple, ici, sur l'évolution en température des spectres du système vraiment initial, où l'on voit apparaître ici un pic d'ion ferreux. Et tout simplement, on voit apparaître à basse température, parce qu'à basse température, on bloque l'échange, et à ce moment-là, le système est constitué d'un système ferrique et d'un système ferreux, indépendant en quelque sorte. Et voilà sur la transition qui se produit autour de 100 K. À basse température, on a donc le doublé ferreux en vert ici, hein, et à plus haute température, lorsque l'échange intervient, eh bien, vous voyez qu'on a ici un doublé qui correspond à un fer 2,5. C'est donc que le transfert électronique agit dans ces circonstances-là. Alors, il y a des gens qui ont réalisé des manips extrêmement intéressantes, et c'est notamment dans le groupe de Michel Scherer aux États-Unis, où les gens ont joué sur les isotopes du fer qui étaient mis en jeu dans la réaction, pour pouvoir observer ou bien le matériau seul, ou bien un type d'ion fer mis en jeu dans le système. Et typiquement, voilà par exemple, ça c'est de l'adsorption de fer 57 sur différents matériaux, alors de l'oxyde de titane, de l'alumine et divers oxydes de fer. Et les oxydes de fer sont réalisés avec l'isotope 56, qui est invisible en spectroscopie Mohs-Bauer. Donc on ne voit avec ce système-là que les ions ferreux ajoutés dans le milieu, introduits dans le milieu. Alors, avec le titane, l'oxyde de titane ou l'oxyde d'aluminium, on a effectivement des doublés qui montrent que l'ion ferreux s'est adsorbé et reste à l'état d'ion ferreux. En revanche, avec de la goethite, eh bien, on s'aperçoit que le fer 2, on ne le voit plus, ça devient un spectre ferrique. Avec de l'hématite, la même chose. Et avec la ferrihydrite qui nous concerne, c'est aussi la même chose. Autrement dit, là, ça permet de bien mettre en évidence le fait que les ions ferreux sont incorporés dans le système et qu'ils se sont transformés en ions ferriques. Et voilà typiquement ce qui se passe, ou du moins en ions ferriques, avec une délocalisation rapide de l'électron. Et voilà ce qui se passe à basse température, en quelque sorte, où là, on a travaillé avec une ferrihydrite faite avec du fer 57, donc la spectroscopie le voit, et on ajoute des ions ferreux, 56, que la spectroscopie ne voit pas. Eh bien, la spectroscopie voit pourtant des ions ferreux dans le système, ce qui montre bien que l'électron parti des ions ferreux ici est arrivé dans le matériau et se délocalise dans le matériau. Donc ça, c'est des manips qui sont extrêmement intéressantes pour pouvoir justement différencier les phénomènes. Alors, en ce qui concerne l'évolution du système ensuite, eh bien, on voit que deux chemins compétitifs sont mis en jeu dans la cristallisation du spinel. D'une part, la formation de très grosses particules, donc qui sont générées par un mécanisme de dissolution, cristallisation, et qui enrichit en somme le système en fer 2. Donc là, on a une composition qui arrive à 0,33. Et puis, ce qui reste, eh bien, ma foi, cristallise comme il peut. Et là, c'est vraisemblablement une déshydratation in situ du solide initial, parce qu'on ne voit guère d'évolution de taille des particules, mais cette fois-ci, très, très appauvri en fer 2, puisque la composition n'est plus que de 0,07, lorsque l'on part au départ d'une composition 0,15. Voilà, alors, en comparaison, ce que l'on peut faire, c'est coprécipiter le fer 3 avec des ions divalents. Et là, eh bien, on observe un diagramme de diffraction qui ressemble aussi à celui d'une ferrihydrite. Mais cette fois-ci, la spectro-infrarouge en particulier montre bien que l'on a un hydroxyde, par exemple, de cobalt. Et par chauffage à 100 degrés au bout de 24 heures, eh bien, on arrive à former la phase spinale. Mais vous voyez que là, il y a quand même un décalage très important, une difficulté beaucoup plus importante pour cristalliser le matériau donc, qu'avec les ions ferreux dans le fer ferrique. Donc là, évidemment, c'est l'absence de transfert électronique qui ralentit beaucoup le processus. En somme, le système ferrique-ferreux tend à cristalliser comme si le système se débrouillait pour augmenter au maximum le domaine de délocalisation de l'électron et par conséquent favoriser la cristallisation du spinel sur le sous-réseau octaédrique. Alors, deuxième cas de figure, enfin point intéressant, c'est les transformations structurales magnétite-magémite. Alors ici, lorsque l'on fabrique la magnétite en milieu acide, c'est-à-dire que là, on part des conditions parfaitement stoichiométriques, la cristallisation est quasi instantanée, même si Clément semblait dire tout à l'heure qu'il n'était pas facile de former des petites particules de magnétite en milieu aqueux. En général, ça se fait quand même extrêmement bien. Et ces particules sont donc formées, obtenues en milieu alcalin, puisque c'est les conditions d'hydroxylation des deux cations, et c'est là où la magnétite est stable. Si on amène ces particules-là, donc d'un pH de 8 par exemple, à un pH de l'ordre de 2, on a la surprise de constater qu'on obtient une suspension de particules en présence d'ions ferreux et exclusivement d'ions ferreux dans la solution, et qu'il n'y a pas d'effet de taille particulier, que chaque fois que des ions ferreux sont relâchés, on a consommé 2 protons, ça ce sont les titrages acido-basiques qui nous le disent. La structure spinelle est conservée dans le système, mais en revanche, eh bien, on voit qu'on est passé d'une magnétite à une magémite. Alors, comment est-ce que ce genre de choses peut se produire? Il n'est évidemment pas question d'envisager un simple échange entre des protons et des ions ferreux. En fait, les choses sont un petit peu plus complexes et l'acidité du milieu intervient pour beaucoup pour localiser, en somme, un électron sur un site, sur un ion fer de la surface et qui passe donc d'un statut de fer 2,5 pour les fers octaédriques à un statut de fer 2 et dans ces conditions d'acidité, eh bien, ce système-là est instable et est éliminé de la structure, de la particule. Et évidemment, pour compenser l'élimination d'un électron du réseau, eh bien, il faut qu'il y ait une création de lacunes cationiques dans la structure et par conséquent, on va avoir migration de lacunes vers l'intérieur de la particule. Alors, comme on a un système à valence mixte et avec une forte mobilité électronique quasiment inconducteur, eh bien évidemment, les électrons la présence d'ions ferreux à la surface peut être renouvelée par de nouveaux électrons arrivants, et on a donc un chemin, une sorte de diffusion d'ions ferriques et d'électrons vers la surface, qui est compensé par une migration de lacunes vers le cœur de l'oxyde. Et les chemins de diffusion des ions ferriques dans la structure sont tout à fait possibles parce que dans le réseau spinel, il y a tout un tas de sites qui sont vides et qui peuvent permettre transitoirement aux ions de circuler dans la structure. Alors, globalement, en somme, voilà comment on peut écrire la réaction. Et quand on travaille avec le ferrite de cobalt, eh bien, on s'aperçoit que le même genre de réaction se produit. On relâche des ions cobalt 2 dans la solution, mais il y a à peu près 10% seulement du cobalt qui peut être éliminé, c'est-à-dire le cobalt qui est uniquement à la surface de la particule, tandis qu'avec la magnétite, c'est tout l'ensemble qui peut s'en aller parce que la mobilité électronique renouvelle les sites ferreux sur la surface. Alors, lorsque les ions ferreux ont été éliminés, eh bien, en fait, on s'aperçoit que si on place les particules de magnémite avec des ions ferreux à la surface, eh bien, on arrive à les recombiner sur les particules, à les réabsorber, et que cette réabsorption va se produire jusqu'à une limite tout à fait caractéristique, c'est la limite d'équipopulation dans le sous-réseau octaédrique, comme si on était revenu à la magnétite. En fait, les choses sont un petit peu plus complexes parce qu'on a effectivement une réduction des ions ferriques octaédriques, comme le montre la spectroscopie Mosbauer, mais on conserve la plupart des vacances, des lacunes, dans le sous-réseau octaédrique. Si bien que, vraisemblablement, l'entrée d'électrons est couplée à une introduction de protons, hein, et que les ions ferreux qui sont absorbés à la surface vont, eux, se transformer en spinel du fait que de la couche ferreuse sont partis des électrons vers le cœur de la particule, laissant donc des ions ferriques, et la coexistence d'ions ferriques et d'ions ferreux, on l'a vu tout à l'heure, cristallise en spinel. On a donc une couche de spinel qui se forme à la surface du matériau. Donc, vous voyez que la réaction n'est pas complètement réversible, mais simplement... partiellement réversible seulement. Un autre phénomène intéressant, toujours avec la magnétite, c'est de l'utiliser finalement pour ses propriétés réductrices et d'introduire dans la suspension de magnétite des cations facilement réductibles, par exemple de l'argent, du platine ou du palladium. Et ce que l'on observe, c'est la formation de nanoparticules d'argent métallique par la réduction en somme qui est intervenue à la surface des particules de magnétite. Typiquement, ici, l'absorption d'argent est capable de capter l'électron pour former des ions Ag0 qui vont diffuser et former ces nanoparticules. Alors, cette fois-ci, on a une diffusion d'électrons vers l'extérieur, mais on n'a plus du tout de diffusion de fer, à part, évidemment, la création de lacunes dans la particule. Alors, si on résume un petit peu ces transformations structurales en partant de Fe3O4, évidemment, l'oxydation à l'air, et là, les particules de magnétite sont extrêmement sensibles à l'oxydation à l'air, et travailler, comme je viens de le montrer là, suppose de prendre des précautions évidemment drastiques. Donc, ici, il va se produire un phénomène de réduction de l'oxygène qui va venir s'absorber sur la particule, créer en somme un empilement d'oxygène, et la diffusion des ions ferriques va permettre de coordonner ces ions-là, et donc on va avoir une transformation de la magnétite en magnémite, mais avec une augmentation de taille, vu qu'on crée des couches oxygénées à la surface. Alors ça, c'est le système que l'on vient de voir, en somme, par acidification en milieu acide. On peut obtenir un peu la même chose que celle-ci, mais en absorbant des ions ferriques qui, par eux-mêmes, sont assez acides et qui vont donner lieu à un intéressant système de fixation d'ions ferriques et relargage d'ions ferreux. Bon, je passe un petit peu là-dessus. Ce qu'il est possible aussi de faire, c'est avoir le même genre de transformation, cette fois-ci en absorbant des ions ferriques, mais dans un pH plus élevé, où là, on va avoir formation d'une couche d'hydroxyde ferrique à la surface, entre parenthèses, et qui va être partiellement réduite par le transfert électronique qui vient du cœur de la particule, et par conséquent, qui va aussi donner lieu à la formation plus ou moins épitactique, en somme, d'une couche de spinel sur la surface. Alors voilà un petit peu comment se produisent l'évolution des particules dans ce cas-là, où on suit effectivement aussi l'oxydation, en somme, de la particule de magnétite initiale. Bon, ça, c'est la formation de particules métalliques dans le système avec des cations facilement réductibles. Et ici, c'est donc la quasi-réversibilité du système en absorbant des ions ferreux qui, eux, vont réinjecter des électrons dans la particule. On peut aussi avoir une réduction électrochimique des particules, mais alors cette fois-ci, bon, voilà le voltammogramme du système, la réaction n'est pas réellement réversible, il y a quand même une différence de potentiel relativement importante, mais le système cycle en somme, on arrive malgré tout à oxyder et réduire le système. Et ça peut se faire aussi chimiquement en faisant chauffer ces particules-là dans l'ADMF, en somme, décomposition de l'ADMF, formation de monoxyde de carbone, qui arrive à réduire en quelque sorte le cœur de la particule et former quelque chose qui ressemble en quelque sorte à de la magnétite. Même si on a des couches qui ne sont pas toujours très ordonnées à la surface et avec un taux de défaut à l'intérieur relativement important. Enfin, vous voyez que ces systèmes-là donc, constituent des systèmes relativement réversibles et qu'on pourrait considérer que ces nanoparticules de Spinel fonctionnent comme des batteries, en quelque sorte, qui se chargent et se déchargent. Ça peut avoir de l'intérêt dans un certain nombre de domaines. Enfin, pour terminer, je voudrais rapidement vous parler d'une transformation morphologique qui concerne l'hématite. Et voici, par exemple, des cristaux d'hématite tabulaire, c'est-à-dire des plaquettes hexagonales qui présentent les grandes faces, que sont des faces 001, et les faces basales, qui sont des faces d'indice HK0. Ces particules-là, lorsqu'elles sont traitées en suspension avec des ions ferreux, en présence d'acide oxalique à pH acide à 75 degrés pendant 24 heures, eh bien, donnent lieu à des excroissances de fer, d'oxyde de fer sur les faces basales et une érosion sur les faces latérales. Et on voit ici la formation de ces pyramides sur les faces basales et les faces latérales qui sont tout un petit peu érodées. Alors ça, c'est une transformation tout à fait spectaculaire. Et les caractérisations, alors ça vient aussi du groupe de Rosso aux États-Unis, et Rosso qui a fait aussi pas mal d'études, on le verra tout de suite, avec Michel Scherrer, qui, je vous dis, était la spécialiste là, de l'utilisation de différents types d'isotopes. Donc la caractérisation structurale montre que les excroissances pyramidales ont exactement la même orientation cristalline que l'hématite du bulk des particules, et que, du point de vue Mossbauer, eh bien, cette couche adsorbé. Alors ici, vous voyez qu'on a adsorbé du fer 2,57, donc on ne voit que ça en spectro-Mossbauer, sur de l'hématite 56. Donc ce que l'on voit là ici, c'est uniquement la couche adsorbée. Et il s'agit d'une couche qui ressemble tout à fait à l'hématite naturelle. Bon, il y a quelques subtilités dans le magnétisme, où il y a un ferromagnétisme faible qui persiste plus que ça ne devrait, qui probablement est dû à des défauts dans la couche adsorbée, des inclusions par exemple de fer 2 ou d'autres espèces. Enfin, globalement, vous voyez que du point de vue structural, ça marche bien. Alors on peut se poser la question de savoir... Comment se fait-il, ici on est à pH 2,1, donc en milieu très acide, avec des surfaces qui sont positivement chargées, comment est-ce que l'on peut adsorber des ions ferreux sur ce matériau? Alors si on regarde par exemple une particule d'hématite comme celle-ci et qu'on observe les différents types de surfaces que l'on peut avoir, c'est-à-dire les groupements oxygénés qui peuvent être mono, di, tricoordinés, chacun aura évidemment des caractéristiques acido-basiques différentes, chacun de ces groupes, et on peut modéliser ça avec le modèle musique qui avait été développé par Imstra et Van Riemsdyk, et qui donne des résultats tout à fait intéressants, et qui montre donc que cette variété de sites que l'on rencontre sur les surfaces ont des comportements acido-basiques extrêmement variables. Et qu'en particulier, il y a quelque chose de très intéressant, il y a des groupements ici de type C et D, qui sont des groupements des OH doublement coordonnés, qui conservent une charge négative sur pratiquement tout le domaine d'acidité. Et même si la surface est globalement positivement chargée, parce que vous voyez qu'à pH 2, on aura une légion de sites positifs, eh bien, il va persister des sites négatifs qui pourront se comporter comme des sites de coordination d'espèces solubles qui viendront s'adsorber. Et c'est typiquement, je n'ai pas insisté là-dessus, mais c'est typiquement ce que l'on voyait tout à l'heure aussi lorsque l'on adsorbait des ions ferreux sur la magémite, où le pH d'hydroxylation des ions ferreux était considérablement plus bas que celui qui est caractéristique de la précipitation des ions ferreux seuls en solution. Donc ça montre bien que c'est la surface qui intervient comme un ligand, en somme, condensant de ces ions adsorbés. Alors, donc sur les faces latérales, on va pouvoir trouver ces sites de coordination, mais aussi sur les faces basales. Et ce qu'il est important de voir, c'est que les faces latérales vont porter quasiment la quasi-totalité de la charge positive des particules et pratiquement pas les faces basales qui sont ici. Alors, là aussi, il y avait eu des expériences intéressantes réalisées par un autre groupe. Là, c'était Ambe au Japon qui avait fait ça, où là, ils adsorbaient à pH 2,5 des ions ferriques, cette fois-ci sur de l'hématite. Donc, des ions ferriques 57 sur une hématite 56, autrement dit, la spectro-Mosbauer ne voit pas les particules, ne voit que la couche adsorbée, et les ions ferriques qui s'absorbent, eh bien, dans ces conditions-là, ont bien les caractéristiques structurales de l'hématite. Autrement dit, c'est des ions qui se mettent effectivement dans les positions adéquates sur la structure. Et si la manip est faite à pH 6, où là, les ions ferriques vivent leur vie tout seuls en solution, précipitent pour faire une ferrihydrite, eh bien, le spectre Mosbauer montre simplement un spectre de ferrihydrite légèrement modifié par l'adsorption sur la surface de l'hématite. Donc là, c'est bien la surface qui joue le rôle de ligand coordinant, en somme, des ions en solution. Alors, ce qui se passe, en somme, ce que l'on observe avec l'hématite, eh bien, c'est donc une dissolution de ces faces latérales pour arriver à reconstruire les faces basales. Et en fait, on a donc les réactions du fer de aqueux qui se déposent sur les faces de type 001, qui le fer de s'oxyde pour larguer un électron, et l'électron est envoyé vers les faces latérales pour réduire des sites de surface et éliminer dans la solution des ions ferreux. Et ça, c'est possible parce qu'on a à l'intérieur de la particule la formation d'un gradient de potentiel de surface qui est chimiquement induit par la protonation des surfaces et avec une conductivité suffisante dans le matériau de façon à ce que les électrons passent dans le semi-conducteur et arrivent en somme sur un site de réduction différent. Donc ça, c'est une caractéristique très intéressante de ce genre d'oxyde semi-conducteur, en quelque sorte, qui se comporte de cette manière. Alors, on peut se demander s'il y a une limite à l'adsorption oxydante réalisée dans ces conditions-là. Eh bien, sur une isotherme ici, on constate effectivement que là, sur tous ces points de l'isotherme, où on est en dessous de la saturation de la surface, en ce qui concerne l'adsorption, eh bien, on a des spectres Mosbauer qui correspondent effectivement à une structure de type hématite seulement. Et lorsque les quantités adsorbées deviennent plus importantes, le fer 2 adsorbé est en quantité importante, eh bien là, on voit un doublé quadripolaire qui intervient, qui correspond effectivement à de l'hydroxyde ferreux. Autrement dit, là, il y a trop de fer ferreux et pour réaliser le phénomène que l'on vient de voir, et par conséquent, on a ici une couche d'hydroxyde. Alors, on peut se demander, en fait, dans ces systèmes-là, quel est le devenir des électrons introduits dans la structure par l'adsorption des ions ferreux. Et là, on va avoir différents chemins possibles, en somme. Une adsorption donc, du fer 2 qui va oxyder l'ion adsorbé et larguer l'électron qui va passer dans la bande de conduction du système. Et de là, il y a trois possibilités, en fait. C'est que l'électron se trouve piégé, immobilisé et piégé dans la structure, qui ressorte, en somme, à un endroit quelconque de la structure et réagisse avec une espèce oxydante qui va pouvoir réduire. Donc ça sera une adsorption réductrice, par exemple, de contaminants dans un système naturel, où des entités vont pouvoir venir se faire réduire à la surface. C'est quelque chose qui est un petit peu apparenté aussi à la photocatalyse, sauf qu'en photocatalyse, l'excitation de l'électron, elle est due à l'absorption d'un rayonnement lumineux, tandis qu'ici, c'est simplement introduit par l'adsorption. Et puis, l'autre possibilité, eh bien, c'est une dissolution réductrice, c'est ce que l'on vient de voir dans le cas de l'hématite. Alors, ces phénomènes redox, effectivement, sont extrêmement importants, notamment en ce qui concerne les milieux naturels, parce que dans les systèmes biologiques, en général, ça se passe à des pH 5 à 9, et autrement dit, là, les ions ferriques sont complètement précipités, donc complètement immobilisés. Et dans de tels systèmes, la mobilité du fer ne peut intervenir qu'à l'état ferreux. Donc, transfert redox qui va être très important pour assurer la mobilité du fer dans des systèmes aqueux environnementaux. Alors, à l'état ferrique, on pourrait évidemment avoir aussi de la mobilité des particules, soit par des complexations extrêmement efficaces, par des polymères, des polyélectroliques qui ne manquent pas d'ailleurs dans la nature, ou alors par la charge et la surfaction de très petites particules, qui peuvent donc se déplacer facilement dans les milieux aqueux, ou bien des particules qui peuvent être elles-mêmes adsorbées sur des supports variés, des silices, des aluminosilicates, etc., voire même des systèmes bactériens. Alors, Un autre exemple d'intervention de ces phénomènes redox, c'est le stockage du fer en milieu biologique. Et vous savez que le fer est stocké en milieu biologique sous forme de ferritine. C'est des cages, en quelque sorte, formées par un enchevêtrement de chaînes polypeptidiques dans lesquelles le fer se trouve enfermé, en quelque sorte. Et la communication entre l'intérieur, ça c'est la coupe de cette coque, la communication se fait par l'intermédiaire de canaux. Et le fer est là-dedans incorporé sous forme ferreuse et va se trouver au passage dans les canaux oxydé par un site ferroxydase qui va donc transformer ces ions ferreux en ions ferriques qui vont former par conséquent des particules de ferrihydrite et qui vont se trouver absorbées à l'intérieur par des groupes glutamate. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas que la ferrihydrite cristallise avec le temps et fasse notamment des phases de type hématite ou goethite, parce que sinon la fixation serait définitive. En fait, il y a des groupes phosphates qui sont logés à l'intérieur de la cavité qui permettent d'éviter la cristallisation et de maintenir la ferrihydrite à l'état donc de ferrihydrite réactive. Et l'élimination, le relargage du fer peut se produire en présence de réducteurs chélatants, typiquement des composés de ce type-là, qui vont pouvoir donc réduire le fer et donc le utiliser si besoin. Voilà les conclusions que je souhaite tire moi de cette affaire-là. C'est évidemment le rôle clé des échanges redox dans la formation de phases minérales, dans la spéciation des éléments. Et ça peut être aussi utilisé dans pas mal de processus industriels, notamment tous les processus d'extraction de minerais par les techniques de flottation, où là, ces processus redox, ou l'équivalent, est évidemment mis en jeu. Donc, un rôle particulier des matériaux semi-conducteurs dans le couplage de réactions, comme on vient de le voir, couplage de réactions qui sont spatialement séparées. Et ceci se fait par des transferts électroniques à travers les interfaces. Et de façon très générale, les phénomènes d'adsorption sont gérés par les propriétés acido-basiques de la surface ou celles du milieu, et que les transferts électroniques dépendent essentiellement de la structure électronique du matériau, c'est-à-dire le gap, la largeur de bande, etc., donc toutes les caractéristiques électroniques du matériau. Voilà. Et je voudrais remercier les gens avec qui ont collaboré à tous ces travaux, notamment Elisabeth Tron, Philippe Belleville, Corinne Chaneac, David Porteau, Sophie Cassédion et bien sûr d'autres encore. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et j'espère